Et vous écoutez France Culture. Le cinéma est sans doute une autre réalité. Kyoichi Kurosawa, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, largement consacré ce soir, une actualité japonaise avec la sortie du formidable coffret Kyoichi Kurosawa chez Condor MK2, celle du combo de Ghost in the Shell chez Anime, bande dessinée ensuite, avec le volume Yokai de Shigeru Mizuki aux éditions Cordelius. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre mis ce soir sous l'invocation des spectres et des fantômes traditionnels et contemporains du Japon. Une émission que je mènerai en compagnie de Philippe Rouillet. Comment
bonsoir,
est-il ? Bonsoir, monsieur.
Très bien, nous avons les annonces de Cannes, nous savons que le mauvais genre, il sera présent.
Alors allons-y, on déballe.
Avec en compétition les frères Safdi, par exemple.
Les frères Samedi.
Safdi, oui, on nous promet un film de genre. Voilà, c'est Thierry Frémaux qui promettait un film de genre.
Mais c'est qui les frères Samedi?
Ah, ça, ce sont des cinéastes américains tout à fait mauvais genre dont on reparlera avec leur film. Takashi Miike, Kyoichi Kurosawa dont nous parlons ce soir à un film au certain regard aussi, son nouveau film. Ça ne chôme pas.
Avec une thématique plutôt film d'horreur, film fantastique.
Absolument, plutôt fantastique. Et on va avoir l'intégrale de la saison 2 de Top of the Lake de Jeune Campion. On avait parlé ici même de la saison 1. Et puis le retour de Twin Peaks se fait à Cannes.
Bah alors,
le lancement de la saison 3, nous aurons les deux premières heures à Cannes.
Joie dans nos cœurs et bonheur dans les demeures du mauvais genre. Merci Philippe Rouillet. Bonsoir Fausto Fasulo.
Bonsoir François.
Alors pareil, même analyse de la programmation de Cannes.
J'y serai bien sûr. J'y serai. Seul regret, c'est de voir toujours des polars coréens en séance de minuit. J'ai l'impression que la séance de minuit est donc dédiée, dévolue constamment chaque année.
C'était les zombies, c'était le dernier train pour Busan.
Exactement, mais ça me semble être la fenêtre un petit peu récurrente, le polar coréen, ou en tout cas le film de genre coréen atterrit toujours en séance de minuit. C'est un peu dommage, c'est très chouette de les découvrir sur grand écran, surtout dans l'écran de l'auditorium de lumière, mais... Je trouve ça un peu dommage de ne pas les mettre forcément
en compétition. Donc nous adressons à Thierry Frémaux, mettez les polars coréens plus tôt dans la journée, monsieur le délégué général. Quelques nouvelles d'Atome.
Eh bien, nous sommes en cours de bouclage du numéro 2, donc, qui sortira première semaine de mai.
Et quoi t'il dedans?
Le titre de ce numéro 2, la thématique principale, c'est le goût du chaos avec des auteurs. Le goût du chaos avec des auteurs qui ont effectivement passé leur temps à imaginer le chaos sous toutes ses formes et à essayer de l'organiser à travers leurs planches.
Ah, passionnant. Ça, nous en parlerons à mauvais genre. Monsieur Beer, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Beer est là pour sa chronique finale.
Oui.
Également, nous rappelons bien sûr que le livre à acheter en ce moment, c'est Obsession de Christophe Beer aux éditions Le Dilettante.
Oui, c'est un très bon livre.
C'est un très bon livre. 132 chroniques. La quintessence de 20 ans de chroniques et la quintessence du mauvais genre, bien évidemment.
Ah oui. Oui, je l'ai relu récemment d'ailleurs et c'est vrai que je suis subjugué par ce livre.
Voilà. Obsession de Christophe Beer, honoré d'un article, on peut le lire, dans le Figaro.
Absolument.
On remercie d'ailleurs de nous avoir soutenus.
Ce qu'il faut lire aussi.
Voilà. Autre quintessence du mauvais genre, eh bien, ce sera dans quelques mois l'encyclopédie pratique de Céline Duchesnay. Mais on ne vous en dit pas plus.
Faites une pré-annonce.
Voilà, l'événement se déroule. Mais en attendant, cette encyclopédie, nous allons l'ouvrir rituellement, comme tous les samedis, à la lettre.
Eh bien, je vous propose la lettre B comme beau soleil. B comme beau soleil. Tamina, beau soleil pour son dessin nuage en pantalon.
Ce sont des sexes bleus. Pourquoi pas? Ce sont des formes qui sont assez organiques en réalité, mais qui ne sont plus du tout liées à des choses vulgaires ou obscène. J'ai essayé d'enlever cette obscénité, justement. Et ce nuage, celui-ci, sera très grand puisqu'il va couvrir la surface des toilettes qui fait 4 mètres sur 3 et sous une hauteur de plafond de 4 mètres. Donc ça va être très grand et ça va être assez enveloppant, finalement.
Souvenez-vous, l'année dernière, l'artiste Tamina Beausoleil était venue nous parler de ces femmes sauvages. Alors elle revient aujourd'hui avec une nouvelle proposition, un nuage entièrement composé de phallus bleus qu'elle a conçu spécialement pour la Biennale de Gentilly dans le Val-de-Marne, Biennale qui se tiendra du 22 au 30 avril dans l'ancien collège Pierre Curie. Tamina Beausoleil a choisi d'investir les toilettes de ce lieu afin de renouer avec la tradition des graffitis sexuels qui viennent régulièrement orner les murs des espaces publics ou des water closets. Sauf que comme Tamina est une esthète, elle voit dans ses petits phallus gribouillés à la va-vite des signes de poésie et de beauté. Et pour leur rendre hommage, elle a composé cette œuvre qu'elle a intitulée « Nuage en pantalon ». À l'origine, c'est le titre d'un poème de Vladimir Mayakovsky.
Dans « Le nuage en pantalon », le texte, il est question d'identité et d'identité masculine un peu floue, en 1915. Aujourd'hui, je me pose toujours des questions par rapport à la question du corps dans ses énoncés et dans sa représentation. J'avais donc envie de travailler sur le corps masculin, cette fois. Et ces nuages sont donc composés de sexe masculin, dans la symbolique la plus simple, qui est un phallus. Mais la manière dont moi je le conçois, c'est pas un phallus qui serait symbole de perforation, d'agression, d'obscénité ou de guerre, mais ça serait plutôt un phallus qui serait symbole de légèreté, de poésie, de création, quelque chose de beaucoup plus évanescent que ce qu'on a l'habitude d'imaginer ou de voir. Je me suis toujours demandé pourquoi cette forme d'ogive, qui est aussi une forme d'architecture et un élément de guerre, pourquoi c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec la violence. Or l'homme, évidemment, n'est pas que ça. Donc ces nuages en pantalon deviennent des gouttes, des bancs de poissons, de la dentelle, un plumage éventuellement. Et je décline ces nuages en petits dessins. Pourquoi se contenter d'une représentation toujours un peu triste et toujours un peu dure du corps, alors qu'il y a plein d'autres façons de le voir et ça peut être beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger.
Le nuage en pantalon de Tamina Beausoleil sera à découvrir dans les toilettes de l'ancien collège Pierre Curie, une œuvre monumentale à voir du 22 au 30 avril dans le cadre de la Biennale de Gentilly. Je devrais plutôt dire d'ailleurs une œuvre participative car les visiteurs seront invités à ajouter leur contribution au dessin de Tamina Beausoleil en dessinant leur propre petit phallus qui viendra ainsi s'intégrer dans l'immense nuage en pantalon de Tamina Beausoleil. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Biennale, biennaledegentilly.org ou sur le site de l'artiste taminabeausoleil.com et notez aussi que vous pouvez retrouver ses dessins dans le numéro 26 de la revue Test Véhicule Poétique disponible en librairie.
Céline Duchesnay, merci pour cette entrée Tamina Beausoleil. Ça fait penser à Bobby Beausoleil, monsieur Fazulo, non ? Tamina Beausoleil. C'est un personnage beaucoup plus inquiétant qui, lui, ne dessinait pas des phallus dans les toilettes.
Ah non, c'est le mot qu'on puisse dire. Hein.
C'était le bras droit, mais c'est un adepte de la Manson Family.
Oui, dont on avait parlé il y a quelques émissions de ça.
Voilà, on avait parlé en début de saison, donc à l'occasion de la sortie du livre de Simon Liberati. Une réaction sur Tamina Beausoleil, monsieur Beer ?
Oui, je pense que ce sera intéressant de voir comment les visiteurs dessinent leur propre phallus. J'imagine qu'ils vont les faire en très grand pour certains. Oui. C'est-à-dire une démarche un peu opposée à celle de Tamina Beausoleil.
Il est brouillé.
Ah ben moi je trouve que ça manque un peu d'anatomie féminine dans ce pantalon. Il faudrait un peu varier.
Pour une fois que je parle un peu de masculin dans ces chroniques, ça fait du bien.
Oui, mais voilà. Non.
Vous n'êtes pas d'accord. Bon, j'en tiendrai compte pour la prochaine fois.
Tamina Beausoleil, donc, qui fait son apparition dans l'encyclopédie pratique des mauvais jambes. Et on va délaisser maintenant.
Sa réapparition.
Sa réapparition, de fait. On va délaisser pour l'instant tous ces phallus manuellement dessinés pour s'intéresser à l'univers de monsieur Kyoichi Kurosawa, ses spectres et ses fantômes.
Thank you.
Donato et Pierrot, le premier choix de Laurent Polleret pour notre playlist ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture, une émission consacrée largement aux fantômes et aux spectres japonais. Et le premier événement que nous avons traité, c'est la sortie donc chez MK2 et Condor d'un formidable coffret, monsieur Philippe Rouillet, consacré
très
à Kyoshi Kurosawa. Il n'y a pas tout.
Non, mais c'est impossible de mettre tout. Enfin, voilà,
il y a l'essentiel de l'essentiel.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence en 97 avec Cure, qui est son film, film charnière dans sa filmographie, le film par lequel en Occident on l'a connu, enfin à moins d'avoir fait les rayonnages de certaines vidéoclubs. Mais enfin, je veux dire, les films sortis sur grand écran, ça commence avec Cure au Festival d'automne, et après il y a un choix de 10 films qui sont plus orientés cinéma d'horreur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Kyoshi Kurosawa, c'est quelqu'un qui est né en 55 et qui commence à réaliser dès 1983. Donc, en fait, il va réaliser 15 années de films avant Cure, avant que commence le coffret. Et c'est quelqu'un qui fait des études de sociaux à la fac de Tokyo. Il pense pas forcément, il aime beaucoup le cinéma, il pense pas forcément être cinéaste, mais il suit un cours de quelqu'un qu'on connaît en France, qui est Monsieur Asumi, qui a publié en France un livre sur Ozu. Et donc, il suit un cours sur Ozu qui va complètement le passionner et le décider, dans un premier temps, à écrire sur le cinéma et très vite à être metteur en scène. Et on est dans un moment du cinéma japonais où c'est pas du tout facile, et encore moins pour les jeunes talents. Donc en fait, il va réaliser à la marge. C'est-à-dire que il se fait engager pour faire du Pinku Ega. Hein, vous savez, ces romans japonais dont on a souvent parlé à Mauvais Genre. Sauf que ceux de Monsieur Kurosawa sont un peu néo-godardiens. Donc, au point que son deuxième, qui s'appelle, le titre est génial, The Excitement of the Doremi Fa Girl.
C'est tout à fait,
c'est,
oui.
C'est, bon, et la Nikatsu qu'il produit décide de ne pas le sortir. En disant, il n'y a pas assez de sexe. Lui, il a prévu des flashs érotiques dans le film, mais voilà. Alors, ça va être un peu la fin de sa carrière dans le Pinku Ega au bout de 2 films, ce qui est quand même une carrière très limitée, mais il va se mettre à faire du V-cinéma. Le V-cinéma, ce sont des direct-to-video, en fait. Et donc, c'est des films tournés en vidéo et qui sont des films de genre, des films policiers, des films d'horreur. Et évidemment, petit à petit, il va croiser cette veine auteuriste avec le cahier des charges du cinéma de genre, et ça va aboutir à Cure. Et ça va aboutir... Et c'est pour ça que le coffret est très important, parce que ces films les plus importants sont là. Alors, ce sera amusant une fois d'aller plonger dans ces tout premiers films. Mais ce sont des essais, ce sont des films de commande, parfois réalisés en 4 jours, avec des budgets dérisoires. Là, avec Cure et les 10 films qu'il y a dans le coffret, on commence à avoir un aperçu très très intéressant de ce qu'est le cinéma de Kurosawa.
Fausto Fazulo, sur le parcours de Kyoshi Kurosawa.
C'est une trajectoire qui est passionnante, effectivement, voir qu'on peut commencer comme ça en exécutant des commandes pour la Nikatsu et qu'on termine au Festival de Cannes. Je pense que c'est une trajectoire que lui-même aurait pu difficilement anticiper. Et je pense que ça a été une excellente école pour lui, comme de bon nombre de réalisateurs. Ils sont tout à fait différents, mais quelqu'un comme Miike a aussi commencé dans le V-cinéma, donc a expérimenté des conditions de tournage qui étaient particulièrement rudes. Et aujourd'hui, j'irais pas jusqu'à dire que ce sont des réalisateurs qui sont capables de tout faire, mais pas loin. Et quand leurs obsessions peuvent pleinement s'exprimer, en ce qui concerne Kyoshi Kurosawa, Miike en a d'autres, mais je trouve que Kyoshi Kurosawa est quelqu'un quand même de plus intéressant, et ça donne des films qui sont de véritables œuvres d'auteur, et qui sont d'autant plus intéressantes qu'il y a toujours en elle ce genre qui est affiché parfois moins frontalement. Les derniers films de fantômes de Kyoshi Kurosawa ne ressemblent pas à Cairo, par exemple, mais il a toujours ça en lui, il n'a jamais renié, et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, justement, arrive à tordre les archétypes et à en faire quelque chose d'éminemment personnel.
Monsieur Beer, vous connaissez
Non, pas du tout. Non, je connais
pas. Kurosawa.
Non.
Écoutez bien cette émission.
Ah, oui, je suis tout ouïe.
Alors, on va commencer en évoquant Cure, 1997, où là, on découvre ton univers un peu en bloc, puisqu'il y a son acteur fétiche, dont vous pouvez nous rappeler le nom, Fausto.
Ah oui, Koji Yakusho.
Voilà, donc qui est un personnage qu'on retrouvera dans quasiment tous les films, dans des premiers rôles ou dans des seconds rôles, mais qui est présent d'une certaine façon pour valider, presque
oui,
pour
c'est
authentifier.
Lui. En fait, c'est lui, voilà. C'est la projection de Kyoshi Kurosawa.
Exactement, son film. Physique, son jeu, son personnage,
ils ont le même âge, les deux.
Une espèce de dynamisme furibard et en même temps un côté totalement lunaire et un petit peu à part. départ, donc le personnage est là dès le départ. Il joue le rôle d'un inspecteur qui est censé enquêter sur une singulière série d'assassinats, puisque les victimes, on les retrouve marquées par un X qui est découpé dans leur chair, en dessous de la tête, au rasoir. Donc première chose importante. Et puis, au fil de l'enquête, on finit par identifier l'assassin, le personnage qui est à l'origine de tout cela, qui est un télépathe, enfin qui est un hypnotiseur amnésique. Catégorie assez singulière, mais qui touche tout à fait le thème de Kurosawa, qui est un petit peu le metteur en scène de l'apocalypse invisible, du péril impalpable, une sorte d'onde de mort qui se répand dans la réalité parmi les hommes et parmi les choses, sans qu'on puisse vraiment la saisir, l'identifier. On peut la subir, on peut éventuellement en détecter les effets, mais on ne peut pas la marquer. Et là, c'est tout à fait bon, puisque ce personnage donc, s'adresse aux gens, leur parle, et le mal se fait sans qu'on ne voit rien. Et les scènes de Cure où le mal sévit sont très extraordinaires, puisque il est là un peu comme nous sommes dans le studio. Je me tourne vers Monsieur Beer, je dis: Monsieur Beer, ça va? Vous me répondez oui, ça va. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que je sais pas, je vous trouve un peu drôle aujourd'hui.
Vous trouvez?
Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être à votre place ici? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Allez, voilà. Et les entretiens commencent comme ça, et on se rend compte que c'est une manière de dissoudre un petit peu l'identité du personnage, en tout cas de libérer en lui des pulsions meurtrières, puisque toutes ces figures après commettent des crimes. Et les commettre de façon, je dirais, spontanée, simple et directe. Alors, il y a un moment, il y a un policier qui tue un de ses collègues, alors de façon, mais comme si exactement il lui tapait dans le dos en lui demandant comment ça va. Et il y a d'autres. Donc, c'est vraiment un premier film sur la faillite un peu du réel, sur une espèce de mal endémique qui se répand sans qu'on puisse identifier. Au milieu de tout ça, une société japonaise un peu larguée avec ses rites, ses codes et ses hiérarchies, et puis des enquêteurs ou des personnages qui en sont témoins, qui sont un peu les acteurs de ce drame de manière un peu lunaire. Philippe Rouillet.
Oui, c'est très angoissant. Le personnage que vous décrivez de l'hypnotiseur, moi, m'a évoqué, dans son traitement cinématographique, le docteur Lecter, en fait, dans Le silence des agneaux.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'air très policé et que vous pourriez croiser dans la rue, très, très urbain, mais qui, en même temps, est une sorte d'incarnation du mal plus et qui s'immisce dans votre cerveau de manière terrible. Et c'est ça qui est terrible pour le policier, c'est que et l'autre vient évidemment appuyer là où ça fait mal, notamment en lui expliquant qu'il a dissocié vie privée et vie professionnelle, puisque le policier vit avec une femme dépressive, et l'autre réussit à rentrer dans les fantasmes et dans l'esprit du policier, au point que on ne sait pas si ce que voit le policier lui a été suggéré par le criminel, ou si c'est ce qu'il voit que le criminel voit à son tour. Et ce côté très poreux de la société rend les choses très, très inquiétantes. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma de Kyoichi Kurosawa, c'est ça. C'est-à-dire qu'il part toujours d'un constat de la société japonaise en l'occurrence, mais qui pourrait marcher avec d'autres sociétés. Et il y a une ouverture vers l'au-delà et l'invisible, mais à l'intérieur de cette société. Mmh. Et il utilise le genre pour faire une lecture de la société. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de nos malades? Comment on s'occupe du burn-out, qu'est-ce qu'on fait des criminels, ces questions qui sont des débats de société, il les traite dans ce film via le film de genre entre polar et film d'horreur. Et c'est vraiment un film qui, je trouve, fait peur. Ça fait partie de ces quelques films. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve, dans l'histoire du cinéma, qui arrivent à nous effrayer au moment où on les voit.
Fausto Fazulo.
Oui, puis cette idée de contamination invisible, c'est quelque chose quand même d'assez terrifiant, puisqu'on n'arrive pas à plaquer quelque chose dessus. Et lui, il arrive à retranscrire à travers une mise en scène qui est d'une précision folle. Enfin, à titre personnel, je trouve que c'est le meilleur metteur en scène actuel. Enfin, je trouve que c'est l'un des meilleurs réalisateurs au monde. Et aujourd'hui, je trouve personne qui arrive à me faire aussi peur au cinéma. C'est quelqu'un qui, avec un simple changement d'axe, avec un simple panneau, est capable de vous effrayer. Et ça, c'est très très rare. Il y a très peu d'effets chez lui. Et comme vous le disiez, il y avait quelque chose de très intéressant aussi, c'est la façon dont il écrit et dépeint ses personnages, qui sont tous des espèces de pantins, cette espèce de fatalité, cette idée de mécanisme aussi, qui témoigne de sa grande cinéphilie, puisque c'est quelqu'un qui aime beaucoup Richard Fleischer, qui aime beaucoup Toby Hooper.
Sur ce film-là, il se revendique de L'étrangleur de Boston.
Voilà, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une cinéphilie très japonaise, certes, au début de sa carrière, il faisait aussi des films de Yakuza, donc il aimait ça, mais il est aussi très tourné vers une cinéphilie étrangère. Beaucoup de cinéma américain, beaucoup de cinéma populaire italien aussi. Tous les titres qui l'ont inspiré sont évoqués dans un excellent bouquin bouquin qui s'appelle « Mon effroyable histoire du cinéma », qui est un livre d'entretien avec Yoshi Kurosawa qui a été publié aux éditions Rouge Profond, où là, tout est d'une limpidité absolue. Quand vous lisez ce bouquin, le cinéma de Yoshi Kurosawa vous apparaît de manière claire, incroyablement.
Alors avant de parler de Cairo, on va quand même signaler aussi Charisma, qui est dans le coffret. Alors Charisma, c'est autant, bon, je veux dire, un serial killer, hypnotiseur, un peu démantibulé, on peut arriver à projeter sur lui quelques angoisses. Mais alors là, dans Charisma, le mal est incarné par une espèce d'arbuste un peu maigrelet qui est au milieu d'un échafaudage. Là, c'est encore plus redoutable. Parce que là, cette espèce d'arbuste qui contamine autour de lui toute la forêt, il a vraiment l'air de rien.
Oui, c'est assez Shinto en plus, cette idée de dame qui effectivement est présente dans tous les objets, enfin toute la nature. C'est quelque chose d'extrêmement shintoïste et qui, c'est vrai, sur le papier, ça pourrait nous sembler absolument ridicule en fait.
Ouais.
Mais quand c'est Kiyoshi Kurosawa qui filme ça, ça en devient un sommet de terreur.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il a plus ou moins le même thème à chaque fois, et il trouve de nouveaux dispositifs cinématographiques à chaque fois pour les filmer. C'est pour ça que c'est toujours très excitant, et que la formule du coffret, je trouvais très bienvenue, parce que quand on a vu un, on a envie de mettre une autre galette pour voir ça va être un peu la même histoire, mais complètement différemment.
D'autant plus qu'il travaille toujours avec la même équipe. On retrouve toujours son acteur fétiche, plus toute une série de comédiens qui changent d'affectation, mais qui sont toujours là.
Et c'est aussi ce qui lui permet de faire un ou deux films par an. C'est quand même ça. On va parler de Cairo tout à l'heure. Cairo, c'est son 31e film en 31 ans de carrière. C'est ça qui est génial. Il réussit à faire ce que voulait Fassbinder. Vous vous souvenez, Fassbinder disait « Je voudrais 40 films en 40 ans ». Lui, a fait 31 films en 31 ans.
Donc aussi, Charisma, avec cet arbre qui sent pomper un petit peu toute la vie autour de lui et dévitaliser toute la forêt qui l'entoure. Et très, très étonnant. Alors là, on va s'intéresser maintenant, je dirais, à son quatrième film de 2000.
Enfin, quatrième film du coffret.
Du coffret, voilà, pardon.
C'est son 31e film, hein, François, je viens de le dire.
On va s'intéresser maintenant au quatrième film, pardon.
C'est compliqué les chiffres, là, c'est très compliqué.
Comptez dans le coffret, prenez des notes. Cairo, donc, de film de 2000.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà la BO de Takeshi Akita pour Cairo, donc Kiyoshi Kurosawa. Philippe Rouillet, là, on retrouve encore une thématique identique. Alors, ça n'est plus un arbre, ça n'est plus un serial killer. Les morts reviennent et l'accroche sur l'affiche française, ne restez pas seul.
Oui, parce que c'est en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film sur la solitude. C'est un film sur la solitude des vivants et des morts. Et ce thème de la solitude vient matcher le film date de l'orée des années 2000 avec, en fait, le développement d'Internet. Et en fait, c'est un site Internet qui vous rend zombie, en quelque sorte. C'est ça que raconte le film. Donc, au départ, ça part avec un informaticien dont on attend la disquette. Ses collègues attendent la disquette et en allant chez lui chercher la disquette, ils assistent à sa pendaison en direct.
Pas de crémaillère. Précisons-le.
et à partir de là, c'est un mal qui se répand comme un virus informatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le film, le rendez-vous avec l'au-delà se fait toujours derrière le carré rouge. C'est-à-dire que ce sont des espèces de lieux désaffectés et on a mis, pour les isoler, comme si c'était une scène de crime, un espèce de sparadrap rouge et invariablement, les personnages sont tentés d'enlever le sparadrap et de rentrer là où il ne faut pas rentrer. Et tout d'un coup, cette liaison avec l'au-delà en ce bas monde, va les attirer eux-mêmes. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un film catastrophe. C'est un film de fin du monde, mais qui n'est pas un film de fin du monde invisible, parce que cette contamination, un peu comme avec les zombies, si vous voulez, ou avec les vampires, c'est-à-dire que tout le monde devient fantôme et tout le monde meurt et ça crée des problèmes. Et il y a des images vraiment superbes de Tokyo à feu et à sang. En incendie, et il a pas les moyens dingues. Alors, on est en 2000, donc il s'agit pas de faire des effets numériques. Il a pas non plus les moyens de, donc, bah, du coup, il tourne très tôt le matin et en bricolant des effets de fumée, etc. Faut dire que de manière très générale, comme dans ce cinéma à l'économie, il filme très peu de monde dans les rues. Il y a un côté un peu comme dans la série Chapeau melon et bottes de cuir à la télévision, où par économie, on mettait pas de figurants. Et ça donnait un espèce de monde un peu...
La Magritte, quoi, les rues sont vides.
Voilà, alors ce sera pas le cas tout à l'heure quand on parlera de Tokyo Sonata, mais non, dans ces films contre, d'horreur, au contraire, il y a comme ça une espèce de... Et alors là, c'est vraiment extraordinaire de voir Tokyo à l'apocalypse.
Christophe Azzolo.
Oui, moi j'adore le film, mais j'avais un petit peu peur de le revoir, puisque vu qu'effectivement les racines du scénario sont très technologiques, j'avais peur que le fait qu'on soit passé aujourd'hui au smartphone, aux tablettes, etc., ça paraisse un peu désuet. Et en fait, le film est encore hyper actuel, fonctionne toujours très très bien. Ce que j'adore, c'est que dès le premier plan, dès l'apparition en fait du titre en kanji, la note d'intention est là. Le kanji de Kai, en fait, c'est un carré avec un autre carré à l'intérieur. Et tout le film, c'est ça. C'est tout est cadré. Tous les personnages, par exemple, sont constamment montrés enfermés. Ils jouent beaucoup avec les surcadrages. Il y a ce sentiment effectivement d'étouffement, et puis il y a cette ambiance bétonnée, industrielle. Il y a cette idée de contamination invisible. Contamination de la société hyper technologique qui vient contaminer la société industrielle qui est montrée en pleine décrépitude. Et puis il y a des scènes de mort qui sont parmi les plus spectaculaires jamais vues au cinéma. La façon dont il les met en scène, c'est toujours très intéressant. C'est soit au premier plan dans un éclair extrêmement rapide pour certains suicides, soit c'est en arrière-plan et là on se fait nous le témoin d'une scène effroyable. Il y a cette fameuse mort, ce suicide en fait de cette jeune femme qui se jette en haut d'une tour industrielle qui fait partie des scènes les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. Épouvante.
D'autant qu'elle est filmée comme ça. Enfin, il y a une rue tranquille.
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Elle
par
est
rapport
à profondeur de champ.
C'est ça, par rapport au panneau. C'est un simple panneau vertical qui suit en fait la descente de cette femme. Et c'est un des moments les plus mémorables de l'histoire du cinéma fantastique.
Ouais. Et c'est un des films qui cadre le mieux les écrans, je trouve. Parce qu'évidemment, comme la menace vient de l'écran, c'est que même quand l'écran est éteint, comme il y a le reflet de celui qui le regarde, qui est assis en face, on ne sait pas si l'écran s'est pas finalement rallumé. Parce qu'il y a constamment ça, les écrans échappent totalement à ceux qui les utilisent et même aux lois de l'électricité, c'est-à-dire que vous pouvez débrancher et que l'écran, parce qu'il est possédé, continue. Et justement, les images que montrent les écrans sont d'autres lieux avec des gens assis face à des écrans. C'est ce que disait tout à l'heure Fausto, une espèce de mise en abîme du cadre à l'intérieur du cadre. Et ça vaut le coup, ça vaut aussi pour les écrans. Et ces reflets de gens qui regardent des écrans et ceux qui les regardent savent même pas si c'est leur propre effet miroir ou si c'est d'autres personnes qui, comme eux, sont seules face à leur écran, et aussi quelque chose de très frissonnant, surtout quand on regarde le DVD, qu'on est soi-même face à un écran.
Et avec cette grande idée que l'écran qui représente des points blancs qui semble aller un peu comme le tennis Atari il y a très très longtemps, très 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 longtemps sur les jeux vidéo, c'est pareil. Mais là, on a l'impression de regarder dans un microscope, de voir des bactéries en train de se côtoyer, une espèce de bactéries. Et les points sur l'écran sont comme des bactéries, et c'est tout à fait impressionnant. Et puis effectivement, des moments où les personnages se dissolvent de façon étonnante, puisqu'il ne reste plus de l'homme à la surface du monde qu'une tache de moisissure sur un mur.
C'est ça.
Ce qui à la fois évoque Hiroshima, la photographie des morts par l'éclair nucléaire, et en même temps, une vision totalement dépressive et pessimiste de l'individu qui serait grosso modo qu'une moisissure à la surface du monde, monsieur Rouillet.
Oui, non, mais c'est exactement ça, parce qu'il faut bien voir que chez Kiyoshi Kurosawa, il y a une version très, très, très pessimiste. Vous parliez tout à l'heure de fatalité. Les personnages voient arriver leur propre fin de manière totalement impuissante. C'est-à-dire qu'ils sont rattrapés par ce mal, et ils ont beau essayer de prendre un bateau, finalement le bateau il est conduit par l'acteur japonais fétiche.
Oui, et d'ailleurs très étonnamment,
et clôt le film.
Et ce qui clôt le film, c'est un plan de la mer avec le bateau pris en grande plongée, c'est le cas de le dire,
avec
le petit bateau qui évoque l'écran sur lequel...
Ben oui, parce qu'à ce moment-là, le cadre se resserre et on a l'impression qu'on est en train de regarder encore un écran.
Le propos est parfaitement rigoureux. Alors, on va tâcher d'échapper au mal, c'est-à-dire de sortir de la box Kurosawa, édité par Condor, et de s'intéresser donc à Tokyo Sonata.
Oui, alors qui
ne figure pas, mais on va d'abord peut-être écouter une pincée de querelle de famille, donc extraite de cette Tokyo Sonata de Kyoji Kurosawa. Alors, Monsieur Philippe Houillet, où sont les fantômes dans Tokyo Sonata ?
Chez ARP. Parce que, voilà, on a dit qu'il y a 10 films dans le coffret Condor, c'est formidable, mais 10 films entre Vers l'autre rive, qui était le dernier sorti de Kyoji Kurosawa avant Le secret de la chambre noire, il y a deux mois, en 2015, et 97, Cure, comme ça, en 18 ans, il a fait beaucoup plus que 10. Donc, il y en a d'autres qui ne sont pas édités, et parmi ces autres... Et parmi un qui est formidable, qui s'appelle Tokyo Sonata, et c'est ARP qui a décidé, lui, de le sortir. Alors, le coffret est joli parce qu'il y a un Blu-ray en plus. C'est ce qui manque à l'édition Condor. Messieurs des Condors, on est très contents de votre coffret, mais il manque quelques galettes Blu-ray pour notre plaisir.
Le Blu-ray est à venir.
Tokyo Sonata, vous avez le choix du Blu-ray et du DVD. Alors, Tokyo Sonata, on pourrait le prendre comme un film dramatique ordinaire, une espèce de film antonionien sur la cellule familiale. Ça commence avec le père de famille, qui est vraiment la caricature du japonais, et qui, dans la première scène, se fait virer de sa boîte où il est directeur administratif.
Ah oui, d'une façon étonnante, vous avez beaucoup fait pour l'entreprise, donc vous êtes viré.
Voilà, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Quelles sont vos capacités ? Voilà. Et en fait, il ne va pas oser dire, ni à sa femme, ni à ses deux fils, qu'il est viré. Donc, il va avoir une espèce de vie, de vie alternative, comme d'autres cadres comme lui, qui sont chômeurs et qui errent dans
On peut l'affaire roman.
Voilà, il y a un côté, on pense à l'affaire roman, en même temps, il essaye vraiment de trouver. Donc, il va à une espèce de pôle emploi. Mais alors, pôle emploi, c'est une vision totalement cauchemardesque, c'est une espèce d'immeuble vétuste, où il y a une queue de cadres qui fait plusieurs étages, Et où les gens n'ont toujours rien à proposer, si ce n'est des boulots d'agents d'entretien, de veilleurs de nuit, et qui ne correspondent pas du tout.
Karaoké.
Voilà, karaoké, qui ne correspondent pas du tout au cadre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de ce mensonge-là, c'est l'ensemble de la cellule familiale qui se dissout. C'est-à-dire que l'aîné va s'engager dans l'armée américaine. Je dis bien l'armée américaine. Mmh. Et comme c'est au moment d'action au Moyen-Orient, il va être envoyé sur le front. Et puis le plus jeune veut absolument apprendre le piano, et comme son père s'y opposait, il va détourner l'argent de la cantine pour prendre des cours de piano, où semble-t-il il est un prodige, mais ce glissement va l'amener à vivre des aventures hors de la légalité très compliquées. Et c'est à ce moment-là que la femme, qu'on pourrait croire être la pauvre mère au foyer, qui en fait a tout compris depuis le début, se fait attraper par un ravisseur, qui est joué, demande par qui ? Par Kyoji Yakucho, qui surgit comme ça un matin, la kidnappe, et finalement, alors qu'elle aurait l'occasion de s'en aller, elle va s'en aller avec le ravisseur. Voilà. Et donc, on voit comment il y a cette espèce d'éclatement et qu'on bascule presque dans un film de genre policier à partir d'un drame antonionien, mais la mise en scène nous ramène au cinéma d'horreur. Et ce que dit Kyoji Kurosawa de son film, c'est que c'est peut-être la forme la plus pure de l'horreur. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a plus besoin de passer par les fantômes. Ce sont les chômeurs, ce sont les déclassés qui apparaissent d'une manière de les cadrer. Ils apparaissent comme en surimpression dans l'image. Et comme s'ils étaient en plus... Et on voit cette espèce de nuée de cadres et de gens désaxés. Le gamin, c'est terrible, le gamin... Il
il a pas de titre de transport et finalement on le colle dans une cellule avec les plus incroyables malfrats. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de société où le pire est toujours possible et on peut vraiment lire le film comme un film d'horreur. C'est comme ça que je le lis moi, avec une note d'espoir à la fin.
Oui.
C'est ça qui est quand même important.
Pas laquelle.
Mais Tokyo Sonata.
Voilà, Tokyo Sonata.
Je suis complètement d'accord, tout ce que je vais dire risque de paraphraser Philippe, mais c'est vrai qu'en tout cas le film prouve à ceux qui doutaient du talent de Yukio Kurosawa qu'effectivement il n'est absolument pas prisonnier de ses spectres et que bien au contraire quand il embrasse une histoire qui est d'apparence pas fantastique, il est capable de la traiter avec une espèce de pertinence liée justement à sa façon de voir le genre que d'aucuns n'auraient pas pu forcément lui soupçonner. Et ce que j'aime aussi chez lui, c'est que lui, il dit qu'il n'a pas vraiment d'obsession, mais qu'il s'adapte en fait selon la société japonaise et selon ce qui se passe dans la société japonaise. Et c'est vrai que son cinéma, c'est une formidable caisse de résonance sociétale de son pays, quoi.
Donc 10 films de Kyoichi Kurosawa dans le coffret Condor MK2 et puis chez ARP, le magnifique Tokyo Sonata. Musique célèbre de Kenji Kawai pour l'anime de Mamoru Oshii, Ghost in the Shell, qui était un événement considérable, Fausto Fazulo, et qu'on peut retrouver maintenant donc dans un combo, comme on dit, DVD et Blu-ray, édité par Anime.
Bah oui, un événement considérable. Je pense que c'est l'un des plus célèbres films d'animation japonaise avec Akira de Katsuhiro Otomo. C'est arrivé un peu plus tard. C'est un film qui est peut-être moins accessible et pyrotechnique qu'Akira, qui est un grand film, attention. Mais les deux sont très intéressants. Les deux films comme les deux réalisateurs. Alors je vais pas faire un parallèle pendant une heure, mais Ce qui est intéressant, c'est que les deux sources en fait de ces films d'animation là sont des mangas à l'origine, donc Akira d'un côté qui était aussi scénarisé et dessiné par Katsuhiro Otomo, et de l'autre côté Ghost in the Shell, à l'origine on a un manga, celui de Masamune Shirow, parce qu'il faut savoir que Mamoru Oshii ne dessine pas. Et d'ailleurs c'est aussi intéressant d'évoquer sa mise en scène à l'aune de cette information là. Ces deux mangas là étaient publiés dans la même revue de prépublication au Japon et ont eu donc des adaptations animées qui sont probablement les plus célèbres et les plus emblématiques en Occident. Voilà, ça c'est pour replacer un petit peu le contexte de production de ces films.
Alors sur l'histoire, puisqu'on va la retrouver là dans le film qui vient de sortir.
Alors c'est une histoire qui est finalement assez simple si on doit la pitcher, puisque c'est l'histoire d'une intelligence artificielle, un androïde, le major Kusanagi, qui travaille pour la section 9 en fait, et qui va enquêter sur les agissements d'un certain Puppet Master, qui est un pirate informatique, et qui va s'immiscer dans plein d'autres intelligences artificielles pour les pirater et les rendre malléables.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est la narration de ce dessin animé. Donc, la restauration permet de profiter au mieux du film. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors que c'est très narratif, Fausto vous a raconté l'histoire. C'est une histoire de type policière, avec de la science-fiction, parce que petit à petit, il va y avoir la question de savoir si est-ce que cette intelligence artificielle, ce cyborg, peut avoir une humanité. Ça va être un peu ça le fil rouge à travers l'enquête. En même temps, il y a de longs moments d'abstraction et qui se retrouvent, dans les choix d'écriture. C'est-à-dire que la première scène nous présente le Major, qui est donc un androïde de type féminin, avant de nous expliquer dans une deuxième scène que c'est un androïde, c'est-à-dire que on voit une personne qu'on pourrait croire être humaine avant de nous expliquer. Et il y a constamment ce jeu qui est un jeu qui est bien connu dans l'histoire du cinéma, que Lynch utilise souvent, c'est-à-dire que on donne des clés avant de donner les serrures. Et il faut se souvenir quand on voit la serrure qu'on avait la clé dans son jeu, quoi, pour la faire marcher. Et ce qui est très intéressant, et je pense que Fausto sera d'accord avec moi puisque il avait l'air de dire que c'était moins pyrotechnique, que on peut voir le film sans chercher à tout comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un côté très planant dans le dessin animé et qui est relayé par une esthétique assez folle qui est celle du manga.
Un dessin animé qui est désormais donc un film en prise de vue réelle.
Je suis humain, j'ai des failles. Mais moi, je m'ouvre au changement. Je m'ouvre à l'amélioration. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Rien que je ne puisse savoir. Et rien que je ne puisse être. Écoutez ça, s'il vous plaît.
Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are.
C'est ma fillette de 4 ans. Le temps qu'elle a mis pour chanter cette comptine, elle a appris à parler l'anglais couramment.
Elle connaît la chanson. Elle la chante.
Il y a une boîte à écho ici. Quelqu'un analyse le flux des données. Voyons qui est digne d'une telle surveillance. J'accède au réseau de sécurité de l'hôtel. Ça y est, 43e étage. Il faut que quelqu'un contacte l'équipe du président. Il est surveillé.
Docteur Osman, dites-moi ce que nous pouvons faire pour vous.
Voilà la bande-annonce française du film de Rupert Sanders tiré de Ghost in the Shell. Alors on peut dire une chose évidente d'abord, c'est que ça traite à fond, enfin le plus à fond possible pour ce type de production, de toutes les problématiques actuelles sur la robotique et sur le transhumanisme. Que reste-t-il de moi si l'on transplante mon cerveau dans le corps d'un androïde? Quelle est la part de machine, comment la machine interagit avec la réalité humaine? Est-ce qu'elle est totalement transmissible, assimilable? Alors il y a cet aspect-là. Et puis le rapport aux machines, le rapport à la robotique. Donc on est véritablement dans un film totalement actualisé par rapport au manga, je crois.
Ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que d'un point de vue de l'esthétique, on pourrait dire que c'est très fidèle au manga. Il s'est vraiment échiné pour qu'en prise de vue réelle, retrouver un peu les axes, les couleurs, même la tessiture du manga, mais d'un point de vue du propos, c'est un peu différent, parce que je vous disais que dans le manga, le Major, on s'interroge sur cet androïde s'il y a une part d'humanité, et là, en fait, c'est un humain, c'est-à-dire que le Major est véritablement un humain qui est à la recherche de son humanité. Et qui du coup va donner lieu à des tas de scènes qui ne sont pas dans le manga, où elle retrouve sa mère, elle voit sa tombe, enfin je veux dire, il y a des choses comme ça qui la réflexion est complètement détournée, c'est-à-dire que on est plus du côté de Robocop finalement comme problématique que celle du manga Ghost in the Shell.
Fausto Fazulon.
Oui, c'est vrai que c'était un film qui était condamné d'avance par les fans, qui condamne à peu près tout projet d'adaptation avant même d'en avoir vu une image. Et effectivement, Rupert Sanders, qui avait par ailleurs déjà adapté de la bande dessinée, il avait adapté en court-métrage Black Hole de Charles Burns. C'en est plutôt pas mal sorti. Et puis, il a aussi composé avec, parce que Ghost in the Shell, c'est une mythologie qui s'est vraiment développée. Donc, c'était un manga à l'origine, un long-métrage d'animation ensuite, mais il y a eu plusieurs séries qui sont sorties après. Donc, il a vraiment composé avec ses différentes mythologies, celle du manga, celle du long-métrage, celle de la série animée Standalone Complex. Et il a fait quelque chose de très digeste, de très respectueux, effectivement, en termes d'iconographie. Ça, de toute façon, il savait qu'il pourrait difficilement le trahir sans être flingué littéralement par la communauté des fans et autres otaku. Et en même temps, il a essayé quand même d'y insuffler quelque chose, je trouve, d'assez personnel. Alors, il y a les passages obligés et inhérents à toute production hollywoodienne, mais c'est en même temps la force du film, c'est de bénéficier d'un budget suffisamment important pour pouvoir donner corps à un univers qui effectivement nécessite quand même de grosses dépenses, tout en gardant une réflexion sur l'intelligence artificielle et aussi sur l'intrusion des nouvelles technologies dans notre quotidien. On a ces énormes hologrammes qui n'étaient pas du tout.
Hommage à Blade Runner.
Hommage à Blade Runner, effectivement, qui était d'ailleurs dans Akira d'Otomo et qui seront peut-être présents dans notre futur où on sera dans une société hyper publicitaire et où on sera constamment dérangé par ces apparitions.
Par rapport au côté abstrait du dessin animé, le film est beaucoup plus ouvert au grand public. Mmh. Et justement, le film commence par vous montrer la fabrication de l'androïde avant de voir son exploit. C'est-à-dire que si on compare avec le dessin animé, les deux premières scènes sont les mêmes, mais dans un ordre inversé. Ce qui permet, l'idée, c'est toujours pour la compréhension du plus grand nombre. C'est-à-dire que n'ayez pas peur d'aller voir le film sans rien connaître de cet univers. Mmh. C'est vrai que c'en est une synthèse, mais le film peut être une introduction tout à fait valable parce qu'on va vous prendre le temps de vous expliquer les choses, de vous les mâcher, alors peut-être un peu trop, mais ce qui est très marrant, c'est que la même semaine quasiment sort la version de La Belle et la Bête, où là les gens sont très contents de voir l'adaptation du dessin animé, alors que c'est juste une redite, alors que les gens qui aiment l'animé Ghost in the Shell sont plutôt hostiles à la mise en chantier d'un film en prise de vue réelle. C'est très intéressant de voir les deux qui sont complètement différents.
Fossofelo, on parlait des spectres avec Kurosawa. Là, c'est ce qu'on appelle le ghost, c'est la personnalité humaine.
Oui, tout à fait, même si Mamoru Oshii, qui est assez retors en interview, dit qu'en gros, on peut y voir ce qu'on veut.
Oui.
C'est ce qui est une réponse qui en vaut une autre. Mais et ça, c'est probablement la chose concernant laquelle le film live est peut-être un peu faible. Mais c'est très difficile de toute façon de conserver tout l'aspect, toute la portée philosophique du film d'animation de Mamoru Oshii, qui par ailleurs, moi c'est quelque chose que j'aime bien, si je peux juste dire un mot là-dessus. Ce qui est intéressant chez Mamoru Oshii, c'est que quand il fait un film d'animation, en fait, il ne réalise rien qui ne pourrait être réalisé en live. Il y a aucun plan impossible comme on voit souvent dans les films d'animation. C'est quelqu'un qui finalement lui aussi est pétri d'une cinéphilie très classique, met en scène avec les outils dont il dispose. Donc il a déjà fait du live, il a déjà fait avec Avalon, il a déjà fait même par le passé avec l'œuvre de l'ange. Et là, finalement, l'animation, c'est un moyen comme un autre pour lui de coucher ses obsessions.
Ghost in the Shell, donc l'animé visible dans un combo produit par Animé, Blu-ray et DVD. Sinon, bien évidemment, le film de Rupert Sanders, visible en salle. L'effrayant Gonja Sufi, choisi par Laurent Polleray pour ouvrir à notre chronique sur Yokai de Shigeru Mizuki, publié aux éditions Cornelius. Alors là, on va quitter le cyberpunk, on va même quitter la société hyper technologique, la société d'aujourd'hui de Kyoichi Kurosawa, pour aller vers un univers beaucoup plus traditionnel, folklorique, voire mythologique. Fausto Fasulo, magnifique livre de Cornelius avec un ensemble de plusieurs dizaines de yokai, donc dessiné par Mizuki, c'est vraiment extraordinaire.
Mais on n'est pas loin des fantômes de Kyoichi Kurosawa aussi, hein.
Bien sûr.
On n'est pas loin.
Rural.
Exactement. Je pense que Kyoichi Kurosawa a dû lire du Shigeru Mizuki quand il était enfant. C'est vrai que Shigeru Mizuki, nous, on le connaît en France depuis le Sacre de Nonomba à Angoulême, qui était donc le premier manga sacré en 2006, si je ne m'abuse. Il y a eu un gros travail des éditions Cornelius pour nous faire découvrir l'œuvre de Shigeru Mizuki, qui est, je vais simplifier à l'extrême, mais qui est aussi populaire et connu et important dans l'histoire de la bande dessinée japonaise, qu'Osamu Tezuka.
C'est dire.
Voilà, donc il est vrai que Tezuka est très connu en France, a eu droit à beaucoup de mangas publiés. Shigeru Mizuki, très peu finalement. Et il est surtout connu au Japon, notamment pour ses histoires de yokai, donc qui sont des monstres folkloriques japonais, qui sont montrés dans toute leur superbe dans ce livre qui est incroyable et qui n'est pas une bande dessinée, donc c'est un recueil d'illustrations, je préfère même dire de tableaux, dans lesquels c'est un plaisir incroyable de se perdre. Il y a une foultitude de détails, puisque le style de Mizuki, c'est ça, c'est des détails dans les décors, dans les textures, donc on peut passer des heures et des heures en fait à regarder des dessins, et on peut croiser quelques figures très familières, même de ceux qui connaissent pas forcément l'univers de Mizuki, mais qui ont peut-être vu des films japonais un petit peu plus classiques des années 60. On peut retrouver par exemple Kappa, qui est une créature amphibie entre la tortue, la grenouille et l'homme. On peut retrouver aussi le Karakasa, qui est une ombrelle avec un seul œil et une langue énorme. Plein de créatures que tous les petits japonais connaissent très très bien, qui ont une influence considérable sur la culture pop au Japon, mais aussi à l'international, puisque les Pokémon sont strictement un décalque en fait des yokai et une espèce de d'émanation ou de prolongement, on peut dire. Donc c'est très intéressant en fait de feuilleter ce livre qui est très sec, c'est-à-dire il y a juste les illustrations, il n'y a pas de texte. Si vous voulez des textes, il y a un dictionnaire des yokai qui a déjà été publié, où là vous pouvez voir justement en fait le nom des monstres, où ils agissent, puisque il y a un monstre par région, plusieurs même, mais en tout cas les monstres sont très régionaux et ont tous en fait des critères physiques et aussi d'activité très précis. Donc ce qui est très intéressant, c'est d'avoir ce livre pour uniquement en fait se rassasier des illustrations, et à côté le dictionnaire des yokai pour pouvoir justement creuser un petit peu autour de ce folklore.
D'autant plus que Mizuki a véritablement joué là une fonction de mythographe, de folkloriste et d'anthropologue, puisque il a rappelé aux Japonais qu'il existait les yokai, qui avaient un peu tendance à les perdre de vue. Lui, il les a remis dans le réseau, si j'ose dire.
Oui, complètement. Il les a remis dans le réseau, et puis lui, c'est une sorte de chaman. C'est quelqu'un qui fait quelque part en fait le lien entre le monde des hommes et le monde des yokai, comme son personnage de
Kitaro le repoussant. Côté Seigneul ou Pierre Dupont un peu.
Oui, oui.
Chez nous, c'est des personnages qui sont une sorte de passeurs entre le monde des ombres ou le monde du surnaturel. Un peu. Oui, c'est ça, c'est tout à fait des chamans culturels.
Complètement. Puis c'est vrai que lui a une histoire, on pourrait faire une émission complète sur lui, mais il a une histoire complètement dingue.
C'est un vétéran
de la Seconde Guerre mondiale.
Manchot.
Voilà, qui a perdu un de ses bras en fait au combat, qui s'est retrouvé perdu dans la jungle en Nouvelle-Guinée et qui a été recueilli par une tribu.
Voilà.
Donc on comprend quelles sont les racines en fait de ces croyances, et c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé aux modes, qui a toujours fait comme bon lui semblait et qui n'a cessé justement de dérouler un univers d'une richesse infinie que les Japonais encore aujourd'hui ne cessent de découvrir.
Mais là on est quand même dans un fantastique figuré, c'est-à-dire c'est comme la Guivre, c'est comme la Tarasque, on est dans un fantastique populaire, on n'est pas dans l'évanescence noire de Kurosawa, d'accord.
Ah non, on est dans quelque chose d'extrêmement frontal, mais en même temps ultra raffiné. Il y a même parfois quelques petits changements stylistiques selon les illustrations, où on le voit par exemple observer un trait un petit peu plus classique, proche des estampes. Parfois, c'est plus lui. Il y a une vraie faculté, j'irai pas jusqu'à dire d'adaptation, c'est pas le terme exact, mais en tout cas, il y a une évolution très légère dans son style qui est vraiment passionnante, ouais.
D'autant plus que le yokai se répand facilement, puisque je connais un petit garçon, moi, qui joue toute la journée. Il a une montre.
Ah, yokai watch.
Voilà, qui doit signaler la présence de yokai. Alors, qui sonne. Et puis, il y a un appareil, une sorte d'application, qui détecte les yokai. Donc, le yokai a quand même une capacité à se fondre dans le décor.
Oui,
et c'est pas uniquement le folklore japonais, ça peut rayonner.
Bien sûr, et puis surtout au Japon, les yokai sont vraiment partout. C'est ce qui les rend à la fois très très quotidien en fait pour les Japonais, et en même temps très exotique pour nous. Et je pense qu'il faut vraiment creuser en fait cette étude là. Et comme je vous le disais en début de chronique, essayer de voir quels sont les noms et les capacités de chacun avec ce dictionnaire des yokai. Ouais.
Yokai Shigeru Mizuki, c'est chez Cornelius. Et maintenant, nous allons donner la parole à notre yokai au 152, le maître Bir.
En 1958, la très péremptoire revue du British Film Institute, Sight and Sound, affirme: Seule une société malade peut tolérer de telles affiches, sans parler des films. Cette censure morale grotesque cible la Hammer Film au moment de la sortie de La Revanche de Frankenstein. Le studio est alors considéré comme un pourvoyeur négligeable de séries B surfant sur l'épouvante. Terence Fisher, un tâcheron, Christopher Lee et Peter Cushing, des acteurs secondaires. James Carreras, l'avisé producteur, finance des campagnes publicitaires tapageuses. Pour la Hammer, qui contribue à l'âge d'or d'une épouvante en Technicolor, exploite une violence brutale et un érotisme frontal, l'ellipse n'est plus de mise. Sur les 75 sur 100 cm, format paysage, des affiches anglaises, la Hammer devient la maison de l'horreur, exagérant les représentations avec un sens rugissant des slogans. Choc fut le label de qualité le mieux estampillé de la firme. Deux créatures s'opposent sur les affiches, le monstre et la belle, l'un menaçant, l'autre hurlant de peur, dans des tensions graphiques qui font de la sexualité le nerf central de ce renouveau du fantastique. Dracula, bouche sanguine, penché sur la gorge nue d'une belle endormie, les yeux clos comme une promesse. Une momie King Kongesque de taille mensongère, ravissant dans sa paume parcheminée une pin-up en déshabillé transparent. Poitrine déployée à crever le papier, une villageoise évanouie est emportée par des zombies aveugles dans une cadavérique alchimie noire et verte. Tom Chantrell, le talentueux affichiste à partir de 1965 et pendant une décennie, a le sens de la bichromie angoissante, nuançant sa palette du pourpre au lilas rouge pour Frankenstein créa la femme qu'un éclair de gouache blanche électrise. Suzanne Denberg, quasi nue et magenta, y est l'ultime incarnation du mal, tandis que Peter Cushing, l'œil fixe, semble durci par la folie. Mais pour un million d'années avant Jésus-Christ, cette fantaisie kitsch de Don Chaffet, Chantrell relègue les grands sauriens de la préhistoire au profit du bikini échancré en peau de bête de Raquel Welch, principal effet spécial du film. Citons aussi Vic Fair qui dissimule, facétieux, des formes phalliques dans l'affiche du Cirque des Vampires. La Hammer Film vibrait aux ondes charnelles et aux pulsions du sexe. Les éditions Aquileos, qui ont sorti l'art de la Hammer, la bibliothèque Mériadec et Lune Noire organisent autour du studio une exposition, des projections et des conférences jusqu'au 3 juin à Bordeaux.
Merci Christophe Beer. Je rappelle les sujets traités ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Le coffret donc chez Condor de Kyoichi Kurosawa, plus chez ARP, la sortie en Blu-ray et DVD de Tokyo Sonata, Ghost in the Shell à la fois la sortie salle et puis bien sûr l'animé qui est disponible chez Animé en Blu-ray et DVD et chez Cornelius, à ne pas rater, Yokai de Shigeru Mizuki, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Ludovic Auger, Claire-Martin Dugard, Chloé Leblon, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Biré, François Angelier. Vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve samedi prochain avec Bruce Bégout pour son roman On ne dormira jamais. Bonsoir à tous.